J'aimerais lire avec vous un passage que nous avons déjà lu quand nous étions ensemble, la plupart d'entre nous, le 1er mai à Mutzig. Donc, un passage, encore une fois, de Matthieu 13. Je lirai en Matthieu 13, à partir du verset 45. Encore le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche de belles perles, et ayant trouvé une perle de très grand prix, il s'en alla et vendit tout ce qu'il avait et il l'acheta. Encore, le royaume des cieux est semblable à une scène jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes. Et quand elle fut pleine, ils la tirèrent sur le rivage et s'asseyant, ils mirent ensemble les bons dans les vaisseaux et ils jetèrent dehors les mauvais. Il en sera de même à la consommation du siècle. Des anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Jésus leur dit, « Avez-vous compris toutes ces choses ?» Ils lui disent, « Oui, Seigneur. » Et il leur dit, « C'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison et produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. » Nous lisons jusque-là. Quand nous étions ensemble le 1er mai, je pense à ceux qui étaient là aussi présents, nous avons déjà parlé de cette similitude de la perle de ces marchands qui a cherché de belles perles. J'aimerais simplement ajouter encore quelques pensées qui n'ont pas encore dites ou peuvent être dites encore une fois. Un marchand. Nous savons bien que dans ce marchand, le Seigneur Jésus parle de lui-même. D'ailleurs, pour nous, c'est une chose très, très précieuse que le Seigneur parle directement. Vous me comprenez quand je dis ça, c'est lui qui raconte ça, qui parle, c'est lui qui présente quelque chose. Ce sont ces paroles exactes qui sont mentionnées ici, que nous pouvons lire et desquelles nous pouvons avoir une grande joie de l'entendre, d'entendre sa voix. Et alors quand il parle d'un marchand, sans dire directement « c'est moi le marchand duquel je parle ici », mais il prend une image. Et il prend l'image du marchand en parlant de lui-même. Il a cherché, lui, le Seigneur Jésus, il a cherché une, il est dit, il a cherché deux belles perles. Deux belles perles. D'abord, alors, c'est comme si c'était pluriel. Et pourtant, son regard était dirigé sur une perle. Il voulait acheter une perle. Et il a trouvé cette perle. Il a cherché et il a trouvé. Et chers amis, nous avons bien compris déjà, quand nous avons eu cette similitude devant les yeux, nous avons bien compris aussi que le Seigneur qui cherche quelque chose, que c'est le désir de son cœur de trouver quelque chose. Et nous pouvons être très heureux de savoir dans l'ensemble de cette similitude que le Seigneur pense à ceux qui aujourd'hui forment son assemblée à lui, qui lui appartient, qu'il a voulu, qu'il a cherché parce qu'il avait envie de la posséder. Mais alors, dans cette similitude, il y a quelque chose qui nous touche aussi, je pense, dans nos cœurs. Parce que nous avons bien compris aussi que cette perle se trouvait dans un coquillage, on dit, je crois, oui, dans un coquillage. Une moule, ou comment est-ce qu'on dit ? Une huître. Dans une huître. Et alors, il n'y a pas partout des perles dans les huîtres, on sait bien. Mais il est arrivé une chose, c'est que cette huître a été blessée, et par cette blessure, il y a quelque chose qui est entré dans la huître, et un parasite, un peu de sable ou quelque chose comme ça, qui fait mal, qui est une blessure pour la huître. Et cette blessure a eu comme conséquence que, autour de ce qui se trouvait là à l'intérieur, la huître a formé des couches de comment on dit ça en français,
nacre
autour, toujours plus. Et puis alors, ça c'est le premier, c'est on comprend bien que cela parle même du Seigneur Jésus. Ça, si je trouve, c'était dans cette similitude, le Seigneur n'est pas seulement celui qui est le marchand, mais aussi il montre par la huître que lui, il a été blessé. Mais pour qu'il y aura une perle, il fallait que l'assemblée, il fallait que le Seigneur soit blessé. Et même encore un deuxième point. La huître, pour avoir la perle, il fallait détruire la huître, il fallait la faire mourir, il fallait la tuer. Encore une image de ce que le Seigneur a dû opérer, il a dû donner sa vie pour qu'il y ait là une perle. Il a dû donner sa vie pour qu'il y ait là l'assemblée. Donc dans cette similitude, nous trouvons un fait très, très grand pour nos cœurs, que la perle qui signifie donc son assemblée, elle est unique, elle est formée uniquement par le fait que le Seigneur Jésus a été blessé, qu'il a souffert et qu'il est même mort. Et ça donne encore pour nous qui appartiennent justement à cette assemblée, à cette perle que le Seigneur a cherchée. Ça nous donne aussi ce grand ce grand événement, et alors avec ça, la grande valeur que le Seigneur a vue dans cette perle, parce qu'elle était vraiment le fruit de sa mort, pour ainsi dire. Donc, cela nous amène aussi dans les autres similitudes, nous ne trouvons pas cela encore dans le même sens, mais dans cette similitude de la perle, nous trouvons justement ce sens si profond de la valeur que le Seigneur Jésus a trouvée dans cette perle, une valeur qui l'a fait donner sa vie. Il achetait les vendus tout. Dans le fait qu'il a vendu tout, nous comprenons bien qu'il a donné tout ce qu'il avait. Il avait donné tout ce qu'il avait quand il était sur la terre. Il a donné sa vie. D'ailleurs, il est très intéressant d'ailleurs aussi de voir que, par exemple, dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle du Seigneur Jésus qui est devenu pauvre, qu'il a tout donné, qu'il était devenu pauvre, que par sa pauvreté, lui qu'il était riche, que par sa pauvreté, nous sommes devenus enrichis. Nous sommes enrichis. Donc, si là, nous voyons combien le Seigneur Jésus s'est abaissé, qu'il ne possédait plus rien sur la terre. Il ne possédait pas de maison. Il n'avait pas. La seule chose dont on sait qu'il a eu, c'est cette tunique que les femmes ont fait pour lui. C'était tout. Il n'avait pas d'argent. Il avait donc ce qu'il pouvait donner. Qu'est-ce que c'était ? Donner tout, c'était donner sa vie, se donner lui-même. Déjà dans cette image dans cette réalité de sa pauvreté, nous pouvons voir que ce que le Seigneur a donné, quand il a donné soi-même, il a donné tout. Il a tout sacrifié. Voilà ce qui est très beau dans cette similitude que le Seigneur présente devant les disciples. Et maintenant, le Seigneur présente encore une autre similitude. Il dit que le royaume des cieux est semblable à une scène jetée dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes. Alors maintenant, le Seigneur donne encore quelque chose qui semble être un peu, comme nous avons lu, qui semble être très proche de ce qu'il avait déjà dit quand il a parlé du champ, que le Seigneur où il a semé de la bonne semence, semé du froment, et où un ennemi est venu pour semer de l'ivraie dans ce champ. Ici, nous avons un peu une idée parallèle, c'est qu'il y a donc cette grande scène avec laquelle des poissons sont pris, des poissons, et alors des poissons bons, et aussi, comme nous avons lu, des poissons mauvais. Oui, des poissons mauvais. Pourquoi est-ce que ces pêcheurs-là, pourquoi est-ce qu'ils ont jeté la scène pour avoir de mauvais poissons? Non, bien sûr que non. La raison, c'était pour avoir de bons poissons, bien sûr. Alors ils ont jeté la scène, la scène est très grande. Elle est tout simplement mise dans la mer, elle est tirée, et puis alors des poissons qui entrent dans la scène. Et pour finir, c'est ce qui est dit jusqu'à la fin, alors que la scène est pleine. Eh bien, ici, les pêcheurs, ce sont des ouvriers d'un maître. Il y a un maître. Et qu'il y a des ouvriers, des pêcheurs qui doivent faire un travail. Quel travail est-ce qu'ils font? Ça, c'est une image, je crois, assez facile à comprendre, une image de l'Évangile qui est prêché dans le monde. La mer, c'est une image du monde. C'est ce que nous trouvons souvent dans l'Écriture, n'est-ce pas? Et dans le monde, maintenant, le maître fait passer la scène pour chercher des poissons, pour chercher des poissons, de bons poissons, bien sûr. Alors c'est, pour ainsi dire, le travail qui se fait aujourd'hui encore. Quand nous voyons ces pêcheurs, nous pouvons peut-être même dire que ce sont des évangélistes, n'est-ce pas, des frères, qui prêchait l'Évangile, et qui prêchait l'Évangile dans le monde entier. Le Seigneur avait dit à ses disciples qu'il devait aller à Jérusalem partout dans le monde pour prêcher l'Évangile. C'est le grand travail que les évangélistes doivent faire, selon l'ordre que leur maître leur a donné. Ainsi, aujourd'hui encore, il y a des évangélistes, il y a des frères, mais aussi nous, nous avons aussi un travail à faire. Et quand le Seigneur présente cette similitude, nous comprenons bien que nous sommes aussi, que cela s'adresse aussi à nous, et que peut-être nous avons aussi à faire, un travail à faire, un service à accomplir. De parler du Seigneur Jésus pour qu'il y ait du fruit, non pas maintenant du fruit comme sur le champ, mais des fruits dans l'image des poissons, des bons poissons. Les pêcheurs ici sont fidèles. Ils sont fidèles parce que ils ont jeté la Seine dans la mer et rassemblant des poissons de toutes sortes. Et quand elle fut pleine, alors ils ont vraiment travaillé. Ce n'était pas pour rien qu'ils ont jeté la Seine. Ils ont vraiment travaillé, ils ont tiré la Seine au rivage. Et maintenant, au rivage, qu'est-ce qu'ils font? Alors ça, c'est intéressant de voir, parce qu'on voit qu'ici, le Seigneur ajoute quelque chose à cette première similitude du champ et du froment qu'il avait semé. Là, vous vous rappelez, le Seigneur avait dit que... Alors, les esclaves ont demandé, est-ce qu'alors, comment il y a de l'ivraie, il y a aussi ces mauvaises herbes, il y a ces choses qu'on ne peut pas employer. Est-ce que nous devons les prendre et puis les jeter dans le feu pour qu'il y a seulement la bonne semence, le froment qui pousse et que tu auras vraiment une bonne récolte? Eh bien non, le Seigneur dit, non, ne faites pas. De peur que peut-être vous pourriez tirer aussi le froment en tirant l'ivraie. Non, laissez les deux ensemble. Voilà ce que le Seigneur avait dit là. Mais nous avons aussi compris que ça devait être jusqu'à un certain moment. À un certain moment, ça devait se terminer. Ici, il est intéressant, et je crois aussi que c'est pour montrer que cela... Ils font quelque chose, ils s'assoient, c'est-à-dire ils prennent vraiment le temps et l'énergie et l'attention nécessaire pour voir quel poisson là a un bon, avoir un bon, et puis alors les autres, les mauvais aussi, pour faire une bonne séparation, une distinction entre ces deux sortes. Ici, les pêcheurs le font. Dans l'autre parabole qu'on avait eue dans le champ, et le froment, il est vrai, là, ils ne devaient pas le faire. Mais ici, paraît que le maître a dit, alors maintenant, vous allez exactement faire la différence. Et je crois que le Seigneur a ajouté cela ici encore, parce que c'est très, très semblable à l'autre similitude, pour montrer qu'en réalité, Dieu ne veut pas que le bon et le mauvais restent ensemble, mais qu'il veut faire la séparation entre ce qui est selon lui et ce qui est contre lui. Il veut faire la différence, et la différence est faite ici par les pécheurs, qui doivent vraiment voir... Comment sont les poissons? De bons poissons, de mauvais poissons? Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils s'occupent surtout des bons poissons. Ils prennent les bons poissons et les mettent dans des vaisseaux. Ils les mettent dans des vaisseaux. Plusieurs vaisseaux sont là parce qu'il y a une grande récolte. Oui. Et alors il y a besoin de différents vaisseaux pour y mettre les bons poissons. Et pour les mauvais poissons, ils les mettent non pas dans des bottes, comme c'était le cas avec l'ivraie, vous vous rappelez de cette similitude-là, mais maintenant, jetez dehors. Alors la différence est faite très clairement. Et on pourrait peut-être se demander maintenant pourquoi ils mettent des bons poissons comme ça dans des vaisseaux. Et il semble que le Seigneur a avec cela déjà une très belle pensée. Il y a des vaisseaux où plusieurs poissons trouvent leur place. Ces poissons sont images des croyants, de vrais croyants, ceux qui ont accepté l'Évangile. N'est-ce pas? Ça, c'est compréhensible. Et alors, avec cela, le Seigneur a aussi en vue quelque chose, des vaisseaux, c'est-à-dire ici et là, et là, et là, des vaisseaux où il y a des bons poissons, des croyants. Il rassemble les croyants. Comme ici, les poissons sont rassemblés dans les vaisseaux, le Seigneur rassemble aussi, veut que soient rassemblés aussi les bons poissons dans des vaisseaux. Et sans que cela soit déjà, disons, révélé, la vérité de l'assemblée n'est pas encore révélée. Le Seigneur n'a pas encore, le Saint-Esprit n'est pas encore venu sur la terre. Mais le Seigneur a, quelquefois, l'assemblée déjà en vue. Je prends un autre exemple, je prends l'exemple de Matthieu 16, n'est-ce pas, là où le Seigneur tout d'un coup parle de son assemblée. Personne n'a encore parlé d'une assemblée, mais là, le Seigneur en parle. Il dit que c'est voilà mon assemblée. Donc, peut-être on peut juste voir ce passage. Au verset, je lirai au verset, oui, 18 peut-être. Alors, et moi aussi, je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, le roc c'est ce que Pierre avait dit, tu es le fils du Dieu vivant. Le Seigneur dit, sur ce roc je bâtirai mon assemblée, et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Moi je bâtirai mon assemblée. Tout d'un coup, le Seigneur parle de son assemblée. Parce qu'il y avait eu cette révélation que Dieu le Père avait donnée à Pierre de dire, toi tu es le fils du Dieu vivant. Alors là, le Seigneur dit, oui, c'est vrai, sur cela sera bâtie aussi mon assemblée. Il parle tout d'un coup de mon assemblée. Est-ce que jamais avant il a parlé de son assemblée? Non, c'est la première fois. C'est un peu comme si le Seigneur veut déjà dire, hey, j'ai quelque chose à vous montrer, j'ai encore quelque chose. Il y a encore mon assemblée que je bâtirai mon assemblée. Un frère a expliqué ça une fois comme cela, a dit, cela me semble être, il me semble parler un peu comme un homme fiancé ou qui vient de se fiancer et qui dit à son bon ami, à ses amis, ah, je vais vous montrer ma fiancée. Personne ne l'a encore vue, mais celle-là, c'est ma fiancée. Et comme si le Seigneur disait cela aussi là, voilà, je bâtirai mon assemblée. Les disciples n'avaient jamais encore entendu avant cette expression « mon assemblée » de la bouche du Seigneur. Et il me semble aussi, et puis après, deux chapitres plus loin, le Seigneur parle encore une fois de son assemblée, mais là il parle non pas de l'assemblée en général, comme en Matthieu 16, mais il parle de l'assemblée locale, d'une assemblée locale, parce que là, vous connaissez ce passage de Matthieu 18 jusqu'au verset 20, que vous connaissez très très bien, là où il explique aussi les caractères de son assemblée, parce qu'elle est assemblée, une assemblée est une réunion d'une assemblée, elle est assemblée en mon nom, n'est-ce pas, il dit. Et là, c'est l'assemblée locale qui est en vue du Seigneur. Et c'est pour cela, je crois, que dans ces vaisseaux, nous pouvons aussi voir des assemblées locales où le Seigneur veut rassembler les croyants, comme les poissons qui sont rassemblés comme ça dans ces vaisseaux. Quelquefois, nous étonnons peut-être un peu de comment le Seigneur nous présente les choses, toujours un peu laissant quelque chose, omettant quelque chose, laissant quelque chose encore à être expliqué plus tard, être révélé au moment où au bon moment où la chose se réalisera, comme justement acte 2, n'est-ce pas, où l'Esprit Saint descend sur la terre, et alors là aussi les disciples ont enfin et tout à fait compris ce que c'est. Et puis alors le Seigneur a en vue encore autre chose, il a donné encore une révélation à l'apôtre Paul qu'il a dû présenter, et non pas à lui. Et lui, il avait le service de présenter la vérité de l'Assemblée, mais les autres disciples connaissaient aussi cette vérité. L'apôtre en Éphésiens 3 en parle, qu'il avait révélé cela à ses apôtres, et que lui, il avait le service de présenter la vérité de l'Assemblée devant les croyants. Donc, c'est ici, il me semble aussi, un point où le Seigneur, en allemand on dirait Andeuten, où le Seigneur...
précise.
Pardon ?
Précise.
Non, pas précision, non, mais il donne déjà une certaine idée de quelque chose. Ne pas dire encore le tout, mais de montrer déjà quelque chose.
Il laisse transparaître.
Oui, voilà, oui. Laisse transparaître quelque chose aussi dans cette similitude, il me semble, oui. Et c'est très beau pour nous de trouver cela. Parce que nous trouvons que le Seigneur avait déjà ces pensées qui, aujourd'hui, nous sommes bien connues, n'est-ce pas ? Nous le savons parce que nous avons le Nouveau Testament, qui n'existait pas encore au moment où le Seigneur a parlé, et pourtant, ce qui était dans son cœur, il en parle quand même déjà. Encore un peu en mystère, mais plus tard, c'est à comprendre. Oui, et maintenant, nous voyons encore... Pardon. Et rassemblant les poissons de toutes sortes, et quand elle fut pleine, ils la tirèrent sur le rivage, et s'asseyant, ils mirent ensemble les bons dans les vaisseaux, et jetèrent dehors les mauvais. Donc, encore une fois, la différence, la séparation est faite. Et le Seigneur montre par là que la séparation entre mal, le mal et le bien est exactement la pensée de Dieu. Pour Dieu, ce n'est pas possible que le mal soit lié à lui ou bien aussi au bon, n'est-ce pas ? Donc c'est une grande pensée de Dieu. Et nous faisons bien de la comprendre aussi aujourd'hui pratiquement. Que tout le mal n'a pas de place dans le rassemblement. Un mal ne peut pas être accepté au milieu de l'assemblée, au milieu de la maison de Dieu. Pas possible qu'un mal puisse rester, être dans la présence de Dieu. On comprend bien. Et le Seigneur, il me semble que le Seigneur ajoute cela encore pour bien faire comprendre, en réalité, Dieu ne veut la séparation entre le méchant et le bon. Ce qui pourrait peut-être paraître autrement, d'après la similitude du chant, de l'ivraie, etc. Mais là, c'est une autre idée, et le Seigneur la présente. Il ajoute cela encore, et devient très clair quant à cette question. Et puis alors, après, il y a encore une courte explication que le Seigneur donne. Il en sera de même à la consommation du siècle. Les anges sortiront et sépareront les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise de feu. Là seront les pleurs et les grincements de dents. Alors là, il y a quand même encore le jugement final contre les méchants. Mais le Seigneur le présente encore avec une autre expression. Il dit, il sera de même à la consommation du siècle. À la consommation du siècle, c'est-à-dire tout à la fin. Quand vraiment, tout ce qui concerne le royaume des cieux, qui est le royaume du Seigneur, mais sur la terre, nous comprenons bien cette pensée, le Seigneur, comme le roi, il est maintenant dans le ciel, c'est pour cela s'appelle le royaume des cieux. Le roi est dans le ciel et le royaume est sur la terre. Mais la consommation du siècle, alors c'est la fin aussi de toute cette période. Donc le jugement final est encore après. Le Seigneur laisse encore, comme d'ailleurs aussi dans la similitude du chant et de l'ivraie, il laisse encore un espace entre le fait de parler des méchants, des justes et des méchants, comme dans la similitude du chant et du livret, comme encore ici, il y a, sans jeter dehors, oui, cela déjà est clair, mais l'effet réel de les mettre au feu, ça, c'est encore un peu plus tard. C'est ce que nous retrouvons donc encore ici. Parce que qu'est-ce qu'il y aura encore quand l'Assemblée sera cherchée par le Seigneur et sera dans le ciel, sera dans la maison du Père? Est-ce qu'alors là, tout de suite vient le jugement? Eh bien non. Ce n'est pas encore là, mais il y aura encore une période, et dans cette période, ça continue encore, le royaume des cieux continue encore, parce qu'encore un évangile est prêché. Ce n'est plus l'évangile de la grâce que nous avons entendu, nous, et nous avons cru, mais c'est l'évangile du royaume qui sera prêché encore par des juifs croyants, et aussi il y a aussi des personnes des nations qui écouteront, et qui croiront, qui auront de la foi. Alors, ce n'est pas pour aller maintenant dans le ciel, parce que l'Assemblée est déjà dans le ciel, mais c'est pour vivre ici sur la terre, le règne des mille ans du Seigneur. Il y aura donc encore une certaine période. Mais une période qui sera difficile pour les croyants, d'ailleurs, dans ce temps. Nous pouvons le lire dans l'Apocalypse, quand il y a tant de choses très difficile à vivre pendant tout ce temps, sans parler maintenant des jugements qui auront lieu encore après que l'Église est déjà dans le ciel. Nous savons que peut-être 7 ans après, au moins 7 ans après, il y aura encore des jugements, oui, comment dire. En allemand, nous disons une expression pour jugement final et le jugement qui seront déjà exécutés ici sur la terre par toutes sortes de grandes tribulations et difficultés, n'est-ce pas? Tout cela aura lieu encore. Et après, donc les anges ont le travail de jeter les méchants dans le feu. Oui. Donc, c'est la septième similitude que le Seigneur a présentée. En réalité, il a présenté huit similitudes, parce que nous en trouvons encore une très courte, très petite, on dirait peut-être, et c'est quand même une similitude, mais pas du royaume des cieux. Vous vous rappelez, au début du chapitre 13, nous avons eu le semeur qui était allé semer la semence. Il y avait différentes sortes de terres sur lesquelles les semences sont tombées. Mais ça, ce n'est pas appelé une similitude du royaume des cieux, n'est-ce pas? Ce n'est pas dit ni pour la dernière, le dernier ici que nous allons encore regarder juste un moment. Donc, nous avons eu une première similitude, le semeur qui va et sème la semence, différentes terres, différentes sortes de cœurs qui reçoivent ou qui ne reçoivent pas. Donc, nous connaissons, nous avons eu ça. Ça fait donc trois qui parlent de l'état dans le monde, n'est-ce pas? Il y a premièrement le livret qui est là. Pour la deuxième, nous avons la graine de moutarde. Dans le troisième, nous avons le levain qui arrive. Voilà, c'est trois. Aussi, nous est montré ce qui n'est pas bon. Et puis ensuite, nous avons trois où il y a quelque chose de très bon. Non? Pas tout à fait, parce que le dernier reprend un peu la pensée encore du chant avec l'ivraie, mais il y a le trésor dans le champ et il y a la perle. Et maintenant, il y a les bons poissons. Il est parlé des bons poissons. Ça, c'est important là, dans cette similitude. Voilà, vous aurez donc une similitude générale. 3 plus 3 similitudes concernant le royaume des cieux, et maintenant encore une huitième similitude. Et il me semble que huitième, cela nous dit aussi quelque chose. 7, les autres savaient 7, une huitième similitude, c'est un nouveau terrain sur lequel cette similitude se place. C'est comme le 8, et aussi, même dans l'Ancien Testament, déjà, le commencement d'une nouvelle semaine. Et là, c'est pour cela, par exemple, aussi, nous avons le Seigneur est ressuscité le premier jour de la semaine, d'une nouvelle semaine. C'est donc, après 7 ans d'une semaine, c'est le 8e jour, c'est le premier jour de la semaine. Le Seigneur est ressuscité. Et dans ce nombre de 8, nous retrouvons quelque chose de nouveau. Nous avons déjà la même chose aussi dans l'Ancien Testament quand nous regardons dans le troisième livre de Moïse, dans le Lévitique, nous avons aussi au chapitre 23 les fêtes de l'Éternel. Nous trouvons aussi ce premier jour de la semaine, le huitième jour, n'est-ce pas? Là où le Seigneur est ressuscité, nous trouvons cela dans le deuxième des fêtes. Et maintenant, il me semble que c'est aussi quelque chose ici de nouveau. Sur le terrain, maintenant, de la résurrection, je peux dire, le Seigneur dit encore une similitude. Il parle, oui, qu'il veut dire à ses disciples. Alors, maintenant, il parle directement de nouveau à ses disciples. Et donc, posant la question, avez-vous compris toutes ces choses? C'est-à-dire les autres similitudes. Tout compris? Ils disent, oui Seigneur, nous ne voulons pas parler de cela. Est-ce qu'ils ont vraiment compris? Ils croient avoir bien compris. Nous croyons aussi quelquefois avoir bien compris, mais et le Seigneur a toujours encore quelque chose à nous montrer. C'était pour les disciples certainement la même chose. Mais le Seigneur n'en parle pas, et il accepte cette réponse, et il leur dit, c'est pour cela que tout scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor les choses nouvelles et les choses vieilles. Ah, maintenant, un scribe qui a été fait disciple du royaume des cieux. Qu'est-ce que c'est un disciple qui a fait qui est un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui a compris, qui a suivi la pensée. C'est un disciple du royaume. Disciple du royaume, c'est quelqu'un qui a appris, qui a compris, qui a accepté, qui a appris quelque chose. Ici, il est appelé aussi un scribe. Nous comprenons bien que ce n'est pas un scribe dans le sens des juifs, n'est-ce pas, les scribes. Mais c'est un scribe qui est vraiment un croyant, c'est vraiment quelqu'un qui a compris ce que le Seigneur dit. Et il a suivi aussi, parce qu'un disciple suit l'enseignement de celui qui l'a enseigné. Et c'est un scribe qui a un travail. Il est semblable à un maître de maison qui produit de son trésor des choses nouvelles et des choses vieilles. C'est quelqu'un qui travaille dans une maison. Ici, il est parlé d'un homme qui a un travail dans une maison. Ça semble être la même chose à peu près que quelqu'un qui, je reviens maintenant à cette autre similitude, qui dans les vaisseaux, c'est-à-dire des rassemblements locaux qui travaillent là. Parce que dans les différents vaisseaux, nous avons vu, il y avait des assemblées locales. Et dans les assemblées locales, il y a aussi un service à accomplir. Il y a un service qui est pour le bien de ceux qui s'y trouvent. Ce n'est plus l'Évangile qui est annoncé à ces poissons, à ces personnes qui sont désignées par les poissons, mais c'est maintenant la vérité que le maître veut encore les enseigner. C'est-à-dire, c'est un service de, on pourrait peut-être dire même, c'est un service de pasteur et de docteur, n'est-ce pas, d'enseigner dans l'assemblée locale, dans les vaisseaux, d'après l'image de la similitude. Et ici, ce maître-là, c'est aussi un de ceux qui a un travail à la maison, dans cette maison de son maître, et il doit enseigner, il doit donner la nourriture, il doit dire ce qui est nécessaire, il doit parler des pensées de son seigneur, de son maître. Cela rappelle peut-être un peu aussi ce que le Seigneur dit plus tard, aussi une certaine similitude, quand il a parlé d'un esclave, un bon esclave, qui donne la nourriture à la maison, à ceux qui sont dans la maison. Chapitre 24. Oui, 24, au verset 45. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable? bienheureux est cet esclave-là que son maître, lequel, lorsqu'il viendra, trouvera faisant ainsi. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tous ses biens. Mais il y a encore un esclave, un méchant esclave, il m'a parlé. Ça existe aussi. Mais le bon esclave qui fait ce travail-là, ça c'est ce scribe-là. Et qu'est-ce qu'il peut donner? Il est parlé de ce qui est des choses nouvelles et des choses vieilles. Les choses nouvelles, c'est ce que nous apprenons dans le Nouveau Testament. Ce sont les choses nouvelles. Pour les disciples, c'était aussi des choses nouvelles. Quand le Seigneur leur a présenté bien des choses, comme dans ces similitudes. Et dans les épîtres, nous trouvons des belles choses, des choses nouvelles. C'est pour cela que l'apôtre Paul et aussi Pierre et les autres apôtres ont dû enseigner aussi les croyants. C'est pour cela que nous avons maintenant le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament par rapport à l'Ancien Testament, ce sont des choses nouvelles, des choses qui n'étaient pas encore révélées dans l'Ancien Testament. Et pourtant, l'Ancien Testament est important également. Donc, il faut connaître les principes que Dieu a déjà établis dans l'Ancien Testament. Nous connaissons ces principes aussi. Par exemple, le principe que nous venons de voir, c'est aussi le principe de la séparation entre le mal et le bien, entre le méchant et le bon, ça c'est clair. C'est déjà un principe de l'Écriture dans l'Ancien Testament. C'est déjà vieux. Ce sont des vieilles choses, mais il y a aussi des choses nouvelles. Et ce scribe-là, qui est un bon esclave, qui comprend son Seigneur, comprend les pensées de son Seigneur, il a maintenant ce service à accomplir, d'enseigner et de consoler. Donc, je viens de dire, aussi une sorte de pasteur et de docteur. Voilà. C'est un service très utile, un service très précieux, un service qu'on doit accepter. Le Seigneur met fin à ce qu'il a dit dans cette série de similitudes. Et il donne encore tout à la fin, il donne encore cette pensée de responsabilité pour l'un ou l'autre. Quand nous lisons tout cela, nous remarquons, j'espère, que le Seigneur ne parle pas seulement de choses historiques qui vont se passer, qui vont arriver. Voilà le mal qui va aussi venir, qui va entrer malheureusement aussi dans la chrétienté, dans le christianisme. Ce n'est pas seulement cela, mais il nous parle aussi à chacun de nous. Il touche à nos consciences et nos cœurs. Peut-être la conscience de l'un, plutôt dans ce sens-là, et que comprend, ah, j'ai un travail à faire, un service à accomplir, et pour l'autre aussi, et pour les autres peut-être aussi, d'accepter ce que le Seigneur dit. Voilà les choses qui sont nécessaires pour l'un et pour l'autre. Le Seigneur fait comme ça un grand tour, jusqu'à ce qu'il parle seulement du service parmi ceux qui appartiennent à lui, qui sont des croyants. Voilà ce que je voulais encore ajouter, parce que nous avons, à Motsik, nous n'avons pas terminé tout à fait. Et la question s'est posée déjà aussi, mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette similitude des poissons? Et il me semble que c'est peut-être une première réponse, et nous avons certainement bien des choses à y réfléchir et à nous demander qu'est-ce que le Seigneur me dit à moi, qu'est-ce qui plaît au Seigneur. Et vous avez remarqué, j'ai commencé avec cette perle, et vous savez pourquoi. Je voulais encore quand même dire quelque chose quant à cela. parce que là, nous trouvons le cœur du Seigneur. Il cherche et il trouve. Il cherche encore aujourd'hui, mais est-ce qu'il trouve? Vous comprenez ce quand je dis ça? Oui, il nous a trouvés, oui. Mais est-ce qu'il nous trouve aussi dans le sens que nous suivons sa pensée? Parce qu'il cherche ceux qui sont fidèles. Il cherche ceux dans la vie, dans la marche, desquels il peut trouver quelque chose qui lui plaît. Et ce qui lui plaît, et ce qui plaît à Dieu le Père, ce sont les traits de caractère que le Seigneur Jésus a montré lui-même ici sur la terre. Plus nous sommes près de lui, plus nous pouvons plaire au Seigneur et à notre Dieu et Père. Nous avons chanté cela dans notre cantique d'ailleurs aussi. Nous cherchons à connaître le Seigneur, à connaître ses pensées, à connaître son cœur. Plus nous le connaissons, plus grandira notre amour pour lui, plus grandira notre fidélité, plus grandira aussi le fruit que nous pouvons lui apporter. Voilà ce que le Seigneur aime voir chez ceux pour lesquels il a tout fait, qu'il s'est donné lui-même. Il a donné tout ce qu'il avait, vendu tout pour les acquérir. Nous sommes, oui, je ne sais pas, en français cette expression n'existe pas tout à fait de la même façon dans l'épître de Tite, quand l'apôtre parle de ce que le Seigneur a fait, comme il nous a sauvés, que nous soyons un Eigentumsvolk, un peuple acquis, oui, c'est ça. Et là, ça, Eigentumsvolk, c'est-à-dire un, oui, c'est un peuple qui lui est propre, oui, qui lui appartient en propre. Voilà. Et je trouve ça très beau, mais aussi. Oui, avec un grand sérieux. Que le Seigneur nous fait comprendre ce qui lui plaît pour que nous le fassions.